Merci Lucas.
Merci Hervé. Merci de votre invitation, de votre confiance. Et je crois qu'on doit, on doit jamais commencer par s'excuser, mais je vais le faire quand même, parce que j'aurais vraiment aimé faire toute cette journée, parcourir toute cette journée avec vous. Mais voilà, je suis pasteur, et voilà, le service m'appelle cet après-midi, donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment avoir l'occasion d'avoir des échanges avec vous, parce que c'est important aussi pour moi de, voilà, de nourrir, d'accompagner, voilà, nourrir ma pensée, mais aussi voilà, cet accompagnement que je veux avoir des soignants sur ces questions à la fois spirituelles et éthiques. Alors, je vous inviterai à une lecture de Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 7. C'est le passage sur les vases d'argile. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons ce même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le soignant face à la mort, les mots qui me sont venus, c'est l'effroi, le poids et l'espérance. Alors, au niveau méthode, plutôt que de donner à l'avance des réponses théologico-éthiques, je me suis d'abord enquis des questions que se posaient les soignants. Et je partirai de cette expérience pour remonter à la source de la réponse qui est dans la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu souverain sur la vie et la mort, créateur de la vie, le Fils qui donne et nous donne la vie par amour, et l'Esprit source de force et de sagesse. Et c'est important. J'y reviendrai. Alors, le soignant face à la mort, comment entendre cette question? Je l'entends d'abord comme une question personnelle. Toute mort me renvoie à ma propre mort. Ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. Si nous sommes honnêtes, au fond de chacun de nous, la perspective de la mort, la nôtre ou celle de nos proches, suscite l'effroi. Mais le chrétien, à cause de son espérance, ne devrait-il pas être délivré de toute peur de la mort ? Ce n'est pas de l'ordre du devoir. Ce n'est pas un raisonnement logique, puisque je suis chrétien, je ne devrais pas avoir peur, qui peut nous délivrer de la peur. C'est dans le rapport de foi au Christ. Alors, serait-ce un péché que d'avoir peur de la mort ? Pourtant, Jésus lui-même, face à la mort, et il est vrai, une mort horrible, n'a-t-il pas été saisi d'effroi ? Serions-nous plus forts que Jésus ? Il me semble que la question n'est pas de ne pas avoir peur, mais de ne pas se laisser conduire par la peur, de ne pas se laisser mener par cette peur de la mort ou l'effroi devant le processus de mort. Et la question, c'est comment résister à la tentation. C'est pourquoi dans le jardin de Gethsémané, Jésus invite justement ses disciples à prier afin de ne pas entrer en tentation. Je crois que la peur de la mort mène à la trahison, comme Pierre a trahi son maître en l'abandonnant. Et c'est pour le soignant, face à l'effroi de celui qui est en train de perdre sa vie, eh bien, il y a cette tentation de l'abandon. Alors, vous n'avez pas mis dans le titre « soignant chrétien ». C'était sous-entendu, comme disait Colette, mais je trouve ça intéressant parce que c'est l'expérience commune, au fond. Vous êtes certes chrétien, vous portez un trésor en vous, qui est l'Évangile, mais vous le portez quand même dans la commune humanité des soignants, de la commune humanité tout court, d'ailleurs. Hein. Bien que régénéré par le Saint-Esprit, notre corps se détruit quand même, et puis notre esprit aussi, et notre cerveau en particulier, est parfois marqué par des expériences de peur. Et là, je voudrais donner une indication qui me semble très utile pastoralement, que j'ai retrouvée en relisant mon professeur Henri Blocher, sur la question de la régénération du croyant par le Saint-Esprit. Il fait remarquer que la régénération, en fait, porte sur l'orientation de l'esprit, puisque le péché est un problème de l'orientation du cœur vers le mal. Et donc, ce que change le Saint-Esprit, c'est qu'il change l'orientation. Mais il ne vient pas guérir toutes les blessures de notre corps, sauf miracle. Ce qui explique, et notre cerveau fait partie de notre corps, ce qui explique que, oui, même chrétiens, nous sommes exposés au burn-out, par exemple. Donc, ça me semble une distinction très importante de... n'oublions pas que nous avons un corps, des limites, que nous sommes d'argile, que nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Alors oui, la vie du Christ déjà travaille en nous et nous oriente vers la vie, hein, déjà présent. Voilà, mais n'oublions pas que nous sommes comme les autres faits d'argile. Alors, en même temps, l'espérance chrétienne est ce qui nous renouvelle devant cette réalité de l'argile humaine qui se dégrade. Et c'est à cause de cette espérance que Paul peut dire « Nous ne nous décourageons pas ». C'est pourquoi nous ne nous décourageons pas. Et je reviendrai en conclusion sur ce pourquoi Paul dit « Nous ne nous décourageons pas ». Parce que je pense que c'est aussi une tentation pour tous ceux qui sont au service d'ailleurs, qui prennent soin de ceux découragé. Et donc, dans ma conclusion, j'y reviendrai. Alors, la mort a changé de définition. Selon John Wyatt, le statut de la mort a changé, car elle est désormais définie par les médecins. Et cite un théologien, Allen Verrey, qui dit que le corps du mourant est devenu un champ de bataille. Sur ce champ de bataille, les médecins et les infirmières héroïques mènent leur guerre contre la mort. Alors, pour Wyatt, cette sentence illustre la dépersonnalisation et la passivité induite par la médecine moderne. Et il pense que d'un point de vue chrétien, il faut résister à la médicalisation de la mort. Pourtant, cette médicalisation de la mort influence, y compris les chrétiens. Et John Wyatt, c'est dans son livre « Dying Well », cite une étude américaine qui montre que plus les gens sont croyants, plus ils préfèrent mourir dans une unité de soins intensifs. Ce qui paraît quand même curieux, parce que c'est un environnement qui nous coupe des relations. Alors, je suis assez méfiant sur ces études qui additionnent des carottes et des choux. Voilà, des croyants, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi pour le croyant cette tentation de la médicalisation. Mais ce que j'ai observé dans mon expérience d'accompagnement de personnes en fin de vie, voilà, qui n'est pas énorme, hein, ce n'est pas ma vocation, mon ministère premier, c'est plutôt un refus chez les chrétiens d'une médicalisation à outrance, c'est une crainte d'une médicalisation à outrance. J'ai un souvenir très pénible, d'ailleurs, d'une personne que j'ai accompagnée en fin de vie et qui était plutôt abandonnée. Ce n'était pas en hôpital, c'était en clinique, qui n'était pas dans un service de soins palliatifs, pas dans un service adéquat du tout, parce que le médecin avait dû acheter une bombe pour hydrater la bouche. Voilà, on peut dire que ce n'était vraiment pas... pas adapté. Et j'ai trouvé que cette personne était plutôt abandonnée par les soignants. Et c'était c'est vrai, une expérience pénible parce que voilà, ce chrétien sincère était dans l'angoisse par rapport à son salut. Voilà. Et donc j'ai essayé de le porter, de l'accompagner. Alors, encore une fois, on pourrait se dire, est-ce qu'un chrétien ne devrait pas, comme Paul à la fin de sa vie, n'avoir aucune peur de la mort, de l'envisager sereinement ? Je crois fermement que la foi n'est pas le déni de nos sentiments réels, peur, angoisse, tentation de la lâcheté, du mensonge, mais que la foi est une course. Et on n'en est pas au même point dans cette course. Et que la fin de vie, l'agonie, est un combat. En grec, agonie, ça veut dire combat. Donc c'est un combat de la foi. Alors, contexte donc de cette mort médicalisée. Alors, on pourrait se demander si le problème du soignant face à la mort, ce n'est pas plutôt le problème du mourir. Et si vous n'auriez pas dû intituler « Le soignant face au mourant ». Parce que est-ce que le problème des soignants, ce n'est pas plutôt le mourant ? Alors, c'est vrai que ce processus du mourir a été amplifié par la technique médicale moderne, et qu'il peut être pénible pour les patients, les proches et les soignants, d'autant plus qu'ils ne vivent pas dans la même temporalité. Et ça, c'est une difficulté aussi. C'est vrai que la médicalisation du mourir soulève un certain nombre de problèmes éthiques, et j'y viendrai dans le cadre de l'interprétation de la loi Claeys-Leonetti de 2016. Mais le problème du soignant est-il seulement celui du mourir? Le philosophe américain Thomas Nagel répond: on suggère parfois que ce qui nous gêne réellement, c'est le processus de mourir. Mais je ne verrai aucune objection à mourir si cela n'était pas suivi de la mort. J'ai lu un mémoire de fin d'études d'une élève infirmière qui a enquêté sur le rapport de soignant à la mort, et elle s'est rendue compte que même pour des soignants expérimentés, la mort restait quelque chose d'inacceptable. Un soignant dit « Les sentiments peuvent nous submerger par projection, même âge, même profession, ressemblance, malgré les années d'expérience. » Donc la projection sur celui qui meurt est inévitable. Ce sentiment que la mort humaine est un scandale, et non pas un processus, et non pas seulement un processus naturel biologique, rejoint la perspective biblique. Alors, l'humanité, Adam, n'a pas été créée immortelle, puisque Dieu lui dit « tu retourneras à la poussière ». Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais, tant qu'il était dans la communion avec Dieu, eh bien, il était dans la vie. Et l'homme n'a pas été créé pour la mort, mais pour la vie. Alors, si la mort est le dernier ennemi, pour reprendre Paul, est-ce que la mort ne serait pas l'ennemi personnel du soignant? Et donc, la mort d'un patient serait-elle un échec personnel? Alors, envisager ainsi la mort d'un patient serait tomber dans une pensée de toute puissance, comme si la vie et la mort dépendaient de nous. Et je crois que pour le soignant chrétien, il est rassurant de penser que la vie et la mort dépendent uniquement de Dieu, finalement, en dépit de l'apparence puissance de nos techniques. Et les mourants réservent parfois des surprises aux soignants. Ainsi, des mourants dont on décide de cesser une assistance artificielle, eh bien, qui ne meurent pas. Et ça dure parfois des semaines, au grand désarroi des soignants et de la famille. Alors, il nous revient à nous, chrétiens, de ne pas prendre la place de Dieu et de bien servir ce prochain qui est le malade, quelle que soit sa perte de capacité et d'autonomie. De le servir comme si nous servions le Seigneur, avec les moyens humains et divins, la force qu'il nous donne. Par rapport à cette question de la mort, j'ai entendu pour le soignant, j'ai entendu un théologien catholique dire qu'il fallait que le soignant construise une théologie de l'échec. Je pense que penser en termes d'échec et de réussite, la mort n'est pas pertinent. Je pense qu'il faut construire une théologie de la faiblesse et qui intègre notre faiblesse, de la faiblesse et de la grâce. C'est quand je suis fort que je suis faible, ma grâce te suffit. L'effroi, le poids de ce contexte d'activisme médical, le poids de l'angoisse du mourant, le poids du contexte légal aussi qui crée une pression sociale, et la modération par rapport à ce poids, la modération des soins et traitements. Alors, l'effroi personnel, je pense que la mort atteint aussi personnellement le soignant. Et j'ai relevé un certain nombre de mécanismes de défense dans ce mémoire de cette élève infirmière. Je pense que c'est, si vous, même si vous les connaissez, ça me semblait important d'en prendre conscience. Le premier mécanisme de défense, c'est le mensonge. Alors, Lucile abordera cette question. Mais c'est... Isabelle, cette infirmière, note que c'est ce mécanisme qui cause le plus de dommages, parce qu'il rompt la relation de confiance entre le médecin et le patient. Et ça a parfois des effets pervers de découverte de la réalité plus tard et sans préparation. Alors, d'un point de vue d'éthique, il me semble qu'il faut toujours dire la vérité au malade, mais pas à n'importe quel moment et pas n'importe comment. Mais ça, voilà, je laisse ça à Lucile. Alors, il y a d'autres mécanismes, hein. L'esquive, on reste hors sujet avec le patient pour... on ne veut pas entendre son angoisse et les perches qu'il tend. La fausse réassurance, qui consiste à optimiser les résultats et à entretenir chez le malade un espoir artificiel, en gonflant artificiellement certains résultats. Alors, à l'inverse du mensonge, il y a la rationalisation. La rationalisation, ça permet de donner la vérité médicale, la vérité, mais dans un langage médical. Ça permet d'éviter l'émotion, mais ça ne permet pas forcément au patient de comprendre l'information reçue, et donc ça peut augmenter son angoisse. Alors, autre mécanisme, hein, la banalisation. On prend en charge la maladie, on s'en tient à la maladie et pas. On évite de voir le malade. L'évitement, hein, c'est la porte fermée. Alors, ça se fait plus tellement la porte fermée, apparemment. La dérision. Alors, ce mécanisme consiste à minimiser, à prendre de la distance aux dépens du patient sur un mode ironique. Et c'est un processus que je trouve là, qui indique que le soignant va mal. Hein, c'est un processus de déshumanisation. Et à l'inverse de cette prise de distance, il y a le problème de l'identification projective. C'est que le soignant attribue à l'autre certains de ses propres traits, lui prête ses sentiments, ses pensées, ses émotions. Alors, le soignant chrétien doit veiller ici à faire un bon usage de la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Et le problème, c'est qu'il faut faire aux autres, mais sans se mettre à la place. Et ça, je pense que le mécanisme projectif, là, il est particulièrement pour le soignant chrétien, il est assez dangereux. Et il me semble que la clé de sagesse ici, c'est de passer des sentiments aux besoins. Quels sont les besoins réels de cette personne singulière? Alors, plus globalement, et en prenant en compte la dimension spirituelle face au processus de mort d'autrui, on peut distinguer la peur, l'angoisse et l'inquiétude. Alors, la peur, ça peut être positif. C'est-à-dire que, un patient risque de mourir, donc on va poser les bons gestes qu'on a appris. Il y a urgence vitale, donc on va poser les bons gestes qu'on a appris à faire. Mais cette peur d'un danger immédiat de mort ne devrait pas empêcher le soignant de se poser la question de la pertinence de certains actes. Et je pense en particulier à la réanimation. Voilà. L'angoisse. Alors l'angoisse, elle est plus existentielle, elle atteint les profondeurs de notre âme, mais si le soignant chrétien la reconnaît, elle lui permet, à l'image du Christ, de cheminer. Voilà. Au fond, l'angoisse nous oblige à voir notre faiblesse. Donc elle peut être un chemin spirituel, l'angoisse, comme le Christ dans le jardin de Gethsémani. Alors, il est vrai que dans le contexte aujourd'hui de médicalisation et de droit à, je pense en particulier à la sédation profonde et continue, le problème aujourd'hui, c'est que la réponse à l'angoisse existentielle, justement, devient technique. Hein, c'est la sédation, voilà. Alors que je pense que les personnes angoissées ont d'abord besoin d'une présence. Bien sûr, même s'il peut, il est légitime hein, d'avoir des aides médicales, mais voilà. Je cite là un article de Christiane Olivier et Marie Joutil qui dit « La sédation profonde et continue n'est pas la réponse adéquate à la souffrance existentielle. » Alors, l'inquiétude, alors par rapport à la peur et à l'angoisse, on pourrait se dire que l'inquiétude n'est pas très grave. C'est un niveau faible. Et pourtant, on est surpris de voir combien Jésus, dans l'Évangile, condamne l'inquiétude des disciples. Pourquoi ? Et il qualifie l'inquiétude d'attitude païenne. Gens de peu de foi, ça veut dire incrédule. Parce que l'inquiétude est un vrai danger spirituel pour le soignant, comme pour tout chrétien. Parce que l'inquiétude ferme nos yeux et nos oreilles à Dieu et nous amène à nous et au prochain, et nous amène à nous disperser. Elle nous fait sombrer dans l'agitation. Et donc, elle nous empêche de faire face, de chercher la face de Dieu et de regarder la face du prochain. Et d'autant plus que l'activisme médical est la pente sociale naturelle. Alors, il y a bien sûr le poids de l'angoisse personnelle, existentielle, du soignant face à la mort, mais il y a aussi un contexte social, où il faut aujourd'hui construire un projet de mort. Plus, on appelle ça plutôt un projet de fin de vie. Vous avez par exemple le docteur Véronique Fournier qui énonce comme un impératif « Il faut construire la mort ». Avec le patient et ses proches. Il y a quelque chose d'assez absurde hein, dans cette. Et de toute puissance. Je me rappelle une gériatre qui me disait mais voilà, on demande à des personnes âgées en confusion qui arrivent en service gériatrique, quelle est. Voilà, vous avez rempli des directives anticipées, quelle est votre personne de confiance ? C'est complètement décalé par rapport à la réalité. Donc il y a un poids de cette demande sociale de construire la mort et aussi un poids du cadre légal qui est une incitation à répondre de façon médicale à des angoisses existentielles. J'avais fait allusion à cet article de Christiane Olivier et Marie Joutil, un article qui est paru dans la revue Esprit, qui s'appelle « La fin de vie au risque d'une spoliation de l'autonomie ». Donc la loi Claeys-Leonetti de 2016 instaure un droit à la sédation profonde et continue en fin de vie. Et qualifie officiellement la nutrition artificielle et l'hydratation artificielle de traitement, donc qu'on peut légitimement arrêter dans le cadre d'une limitation et d'un arrêt des thérapeutiques actives. Christiane Olivier et Marie Joutil relèvent que ce dispositif légal s'avère un dispositif incitatif pour les patients et les soignants à abréger la fin de vie. si la personne ne meurt pas assez vite, la sédation terminale risque fort de se transformer en sédation euthanasique. Et ce n'est pas de l'imagination. Un médecin me confiait son inquiétude. Alors, ce n'était pas dans un service de soins palliatifs, c'était en réanimation, de voir des médecins en réanimation, sous pression de la famille, augmenter de façon dangereuse les doses d'antalgiques. Vous voyez, on est dans un contexte de pression sociale, de contrôle et d'abréger ce processus du mourir. Or, pour le soignant, être actif dans le processus du mourir produit un poids de mort. Si la proximité de la mort a un retentissement intime chez le soignant, à combien plus forte raison quand il a un rôle actif dans cette mort. Et un médecin en soins palliatifs me confiait que les infirmières vivaient mal l'exécution d'une limitation des thérapeutiques actives quand celle-ci entraînait rapidement la mort, comme si elles avaient causé la mort. Alors que ça pouvait être un choix collégial en équipe tout à fait raisonnable et proportionné. Mais voilà, ça avait quand même un retentissement personnel douloureux. Et j'ai suivi un séminaire avec un médecin jésuite belge qui parlait d'un de ses collègues qui pratiquait l'euthanasie en hôpital et qui disait que le matin... où il allait pratiquer une euthanasie, ses enfants le sentaient. Comme s'il y avait, suivant l'expression biblique, un parfum de mort. Donc, voilà, retentissement sur le soignant. Importance, là, de la position de l'équipe. Le docteur Scherer souligne que dans une équipe soignante ou une équipe médicale, n'ayant pas débattu et adopté une position ferme, arrêtée sur le refus de l'euthanasie active, la proposition de hâter la mort d'un patient peut être évoquée comme une solution. Voilà. S'il n'y a pas une réflexion en amont de l'équipe, là aussi, les soignants ne fonctionnent pas tout seuls. Eh bien, il y a ce danger d'être pris dans cette demande et qui, après, a un retentissement personnel. Alors, pourtant, il y a, s'il y a ce poids de la technique, ce poids de choix difficile en fin de vie, il y a une légitime modération de ce poids de la technique médicale pour ne pas créer un fardeau de vie. D'un point de vue de l'éthique chrétienne, il y a pour moi une source trinitaire de l'éthique chrétienne. Dieu le Père, source et maître de la vie, souverain sur la vie et la mort, et qui nous commande de ne pas commettre de meurtre. Dieu le Fils, qui donne sa vie par amour et qui nous invite à aimer, à donner notre vie aussi pour les autres et à aimer. Et puis l'Esprit Saint, qui nous communique la vie du Fils et la force du Fils et la sagesse. Et je me référerai en particulier à Jacques 3, verset 17. Cette question de la sagesse me semble une question très importante en éthique, justement. Il n'y a pas que la loi. Et je pense qu'il faut tenir ces trois dimensions de la loi, de l'amour et de la sagesse. et que la question de la proportionnalité des soins, elle rentre à la fois dans cette question de l'amour et dans cette question, et voilà, dans cette question aussi de, voilà, du cadre de ne pas vouloir mettre à mort, mais aussi dans cette question de la sagesse. Alors, dans cette question de la limitation et de l'arrêt des thérapeutiques actives, le soignant est pris entre deux extrêmes finalement, d'autant plus dans le cadre actuel hein, qui encourage la sédation permanente et continue, c'est de ne pas devenir complice d'un suicide, voire d'une euthanasie, et de ne pas imposer un fardeau de vie. Et je reprends l'expression du bioéthicien catholique Patrick Verspiren, qui ne peut pas être soupçonné d'être favorable à l'euthanasie, mais il dit qu'il y a vraiment un danger que la médecine impose un fardeau de vie. Patrick Verspiren, à propos de la question de l'usage proportionné des moyens médicaux, insiste... pour dire que ce moyen doit être proportionné à la personne. Et c'est pas les moyens eux-mêmes qui doivent être... parce qu'il y a des moyens extraordinaires qui finissent par devenir des moyens ordinaires. Mais le critère, et ça c'est vraiment un critère chrétien, c'est que la proportion, eh bien, c'est l'adaptation à la personne. Faire un usage proportionné à la personne des moyens extraordinaires de la médecine, c'est faire preuve d'amour du prochain comme une personne et non simplement comme un cas, un problème à résoudre. Alors je voudrais donner un exemple précis. Une personne atteinte de démence sévère fait des problèmes de fausse route. Ce qui peut provoquer des infections pulmonaires. Donc se pose la question de l'alimentation artificielle. Mais cette personne se débat et risque d'arracher les perfusions. Donc il faudrait l'attacher. Donc oui, ça créerait une violence. Alors les soignants communiquent avec la famille et il s'avère que cet homme est un ancien boucher et que dans ses propos incohérents, ce qui ressort quand même, c'est la question de la nourriture. Donc l'équipe soignante, collégialement, finalement, décide de continuer l'alimentation naturelle en dépit, assumant le risque, effectivement, que ça provoque une fausse route et voilà, une infection, etc. Mais parce qu'ils estiment que ce soin est proportionné à ce qu'est cette personne. Voilà. Alors, je dirais que je ne... voilà, on peut discuter, hein, c'est pas... mais il me semble que ça illustre ce choix de moyens proportionnés à la personne. Alors, l'effroi, le poids, le contexte social, de la médicalisation de la mort, de décisions difficiles, mais je voudrais terminer sur l'espérance. Au-delà du poids de ce corps de mort, déjà l'espérance. Face au processus de mort biologique, c'est vrai que... La résurrection de ce corps qu'on voit se dégrader est vraiment de l'ordre de la foi et de l'espérance. Elle n'est pas de l'ordre des réalités naturelles visibles. Elle ne peut être pensée qu'à partir du corps du Christ, qui est à la fois différent, le corps ressuscité, il passe au travers des murs, et puis semblable, il y a une continuité de l'histoire du Christ dans son corps, puisqu'il porte dans ses mains les traces de la croix. Alors, Je voudrais venir à ce que Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit que nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Alors, c'est vrai que pour le soignant, ça a été évoqué. Ça peut être très difficile de ne pas apporter ce trésor à des gens qu'il voit dans l'angoisse, hein, devant la mort. Alors j'en discutais avec un médecin chrétien qui me disait que voilà, ça lui arrive de poser la question, est-ce que vous êtes croyant ? Voilà, d'ouvrir la question. Mais que c'était vraiment pour ce médecin une souffrance de ne pas pouvoir partager son espérance. Voilà. Alors peut-être que vous aurez des pistes dans votre contexte. Mais ce médecin disait, voilà, tout ce que je peux faire, c'est prier pour mes patients. Et je me rappelle d'une infirmière chrétienne qui priait ainsi pour une personne en fin de vie. Et cette personne est décédée. La fille de cette personne a dit, je savais que vous priez. Alors, elle a été discrète, hein, donc c'était plutôt une prière intérieure. Je ne sais pas comment la personne a su, mais voilà, c'était un témoignage. Voilà, elle savait que cette soignante avait prié pour sa mère. Alors, par rapport à ce poids de ce contexte, Paul, l'exemple de Paul est intéressant puisque Paul aussi, ce contexte, il y a une certaine oppression. Hein, dans ce que j'ai décrit, hein, à la fois une oppression intérieure et une oppression sociale. Paul dit, nous portons dans notre corps l'agonie du Seigneur, afin que la vie de Jésus se manifeste en nous. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. C'est comme si le fait donner sa vie dans ce témoignage où il va donner sa vie, il va mourir pour sa foi, eh bien c'est une mort, une acceptation de la mort qui donne la vie. Et ce qui est très frappant, c'est cette espérance communautaire de la résurrection. Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Ce avec vous est assez surprenant. On pense à la résurrection en termes individuels. Et là, Paul insiste sur le fait que ce sont aussi des retrouvailles. Alors je pense que c'est extrêmement important. Parce que un des poids de la mort, c'est que la mort est séparation. Et donc, ce que Paul dit, c'est que déjà aujourd'hui, en annonçant l'Évangile, et par ces personnes qui reçoivent l'Évangile, se créent des liens qui demeureront pour l'éternité, des liens qui ne peuvent pas être brisés. Et ça fait partie de l'espérance chrétienne déjà aujourd'hui. L'espérance chrétienne n'est pas seulement future, c'est aussi ces liens que le Christ crée aujourd'hui. Nous serons avec lui dans sa présence. Alors, la mort est séparation, et donc la vie en Christ est retrouvaille, est-ce qu'on se reconnaîtra dans l'éternité ? Alors, il n'y a pas beaucoup de précisions là-dessus, mais Henri Blocher, dans son livre sur l'espérance chrétienne, écrit que l'accomplissement final doit être envisagé comme l'accomplissement des relations humaines. Certains se demandent parfois, nous reconnaîtrons-nous les uns les autres au ciel ? Oui, dans la nouvelle création, l'individualité de chacun sera préservée et les relations accompliront pleinement notre humanité. Les relations nouées sur la terre atteindront leur plénitude. Tout ce qui était mauvais en sera éliminé. Tous les malentendus seront levés. Ça, c'est une espérance formidable, ça. Tous les problèmes de communication. Les relations seront pleines et entières. Donc, dans cette possibilité de se reconnaître personnellement, Blocher s'appuie sur l'expérience de la transfiguration, hein, où les disciples reconnaissent Moïse et Élie. Alors, par rapport à donc la mort, voilà, il y a déjà, nous vivons déjà l'espérance chrétienne dans le lien les uns aux autres, quelque chose de ce lien éternel. Alors, par rapport à la destruction, même si nous attendons, parce que la mort c'est aussi la destruction, même si nous attendons encore la rédemption de notre corps, l'espérance chrétienne, la régénération du Saint-Esprit, déjà génère une vie nouvelle en nous. Hein. Comme dit Paul, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit. Notre être intérieur se renouvelle. Et j'ai fait, comme jeune pasteur, c'était une expérience impressionnante pour moi. Je pense à un chrétien qui était en phase terminale d'un cancer du foie. Eh bien, il était rayonnant. Et on était encouragés, on ressortait encouragés de l'avoir visité. Et on ne peut pas l'expliquer autrement que par ce processus de renouvellement intérieur qui est déjà celui de la vie éternelle, et que la vie de l'esprit qui est en nous est déjà la vie éternelle. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas seulement pour le futur. Alors, donc espérance déjà pour aujourd'hui, et voilà pourquoi nous chrétiens, soignants ou pas, nous pouvons être pressés, mais pas écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage.